BFM Business et Tech & Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Un grand bonjour à toutes et à tous. Voilà le nouveau week-end qui commence et votre nouveau De quoi je me mêle qui arrive. Merci d'être là, merci d'être fidèle, merci de nous télécharger, de nous regarder en streaming, de nous écouter aussi. Votre rendez-vous du week-end, à la fois sur BFM Business, vous savez, à la radio, sur les bons vieux médias radio et télé et sur la chaîne BFM Business TV sur Tech & Co, mais aussi sur YouTube et donc en podcast avec, pour ceux De quoi je me mêle cette semaine, tout à l'heure, on va replonger encore une fois dans le musée de la tech. Je sais que vous aimez bien ce rendez-vous, et moi aussi. Et avec Christophe Joly, on va ouvrir l'armoire de l'iPad. Eh oui, première tablette tactile révolutionnaire. Tiens, plus de 10 ans après, je crois qu'on doit être à 12 ans après la sortie de l'iPad. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment un produit de rupture? On en parlera et on reviendra sur l'histoire de l'iPad avec Christophe Joly. Je vous rappelle que vous avez le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à toute l'actualité de cette émission. Merci d'être là encore une fois et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et c'est avec Anthony Morel qu'on ouvre le bal pour le club de la presse IT. Salut Anthony.
Salut François, salut à tous.
Le matin sur BFM Business, sur RMC à la mi-journée, le soir il dort. Quoi d'autre?
Non, il dort pas, c'est un mythe.
Eh bien voilà, c'est ça. Une petite mise à jour d'Anthony Morel et c'est reparti, mesdames, messieurs, le premier journaliste cyborg. Tiens, je parlais de l'iPad.
Ah oh là là, que c'est,
ça va être génial tout à l'heure de se replonger dans ce truc-là.
Ah mais carrément.
Tu as un iPad, toi ?
Bien sûr, moi j'ai le premier. J'ai eu le premier.
Ouais, wow. Absolument. Et il marche encore ?
Ça fait longtemps que je ne l'ai pas allumé. C'est une bonne question. Tiens,
c'est une bonne question.
Tu sais, on avait parlé du premier iPhone là, qui s'est vendu 30 000 $ il n'y a pas longtemps aux enchères. Enfin bon, il était sous blister, machin. Moi, le mien, il est un peu pété. Je ne suis pas sûr qu'il vaille ce prix-là, tu vois. Pour moi, tu disais produit révolutionnaire ou pas. Moi, pour moi, ça a été une révolution. Hein. Ouais. Enfin, vraiment, c'est un truc. Moi, je pense que je m'en suis. À l'époque, je m'en servais plus que de mon smartphone, même. Maintenant, c'est un peu différent parce que les formats des smartphones sont un peu plus grand, mais t'avais Arcos, tu te souviens d'Arcos?
Oui, bien sûr, les tablettes Arcos.
Couper l'herbe sous le pied par Apple, quoi.
Parce que qui est arrivé avec un truc plus fluide, plus joli, plus beau.
Bah, c'est ça.
Présenté
c'est la
par Steve Jobs aussi, rappelons-le. Hein,
c'est la
qui était sur son petit canapé. On reviendra sur tout ça tout à l'heure, donc ça sera la deuxième partie de De quoi je me mêle avec Christophe Joly. Anthony, dans l'actu, plein de choses. On va commencer par Mark Zuckerberg, qui est assez silencieux en ce moment. Mais malgré tout, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, il y a certains indicateurs qui nous montrent que le métavers est... Et non pas en pause, mais en tous les cas moins mis en avant par la direction de Meta, ce qu'on peut comprendre dans ce contexte.
C'est vrai. Il y a des signaux faibles, comme on dit, qui montrent que... au moins que la hype est en train de retomber comme un soufflet. Et c'est vrai qu'elle était montée très très haut, cette hype. Ouais. Hein. Et je veux dire, peut-être aussi à nous de faire un peu notre mea culpa de ce point de vue-là, parce qu'on a beaucoup parlé, je pense, l'an dernier, il n'y a pas une semaine où on ne parlait pas de métavers, mais parce qu'il y avait plein de choses intéressantes à raconter aussi. Mais là, on sent que tout ça est en train de se calmer un tout petit peu. Alors c'est intéressant, il y a plein de petits éléments.
Ouais.
Alors déjà, Zuckerberg, effectivement, même s'il ne le dit pas publiquement, il a envoyé une lettre à ses troupes, à ses salariés, où il explique, alors il dit pas le métavers est mort, évidemment, continue à investir, il continue à croire que ça va être le futur d'Internet, mais il dit notre priorité numéro un maintenant, c'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire c'est la lutte face à ChatGPT, GPT-4, etc. On sait qu'ils ont un système qui s'appelle Llama, qui a fuité d'ailleurs sur Internet et qui est visiblement très performant, mais bon, les investissements vont aller dans cette direction-là, premièrement, et le métavers, c'est après. Alors que le métavers, jusqu'ici, c'était... le pilier stratégique de la croissance de... Enfin, ils ont quand même changé de nom pour ça. Hein.
Ouais,
Meta, il s'appelle Meta parce que c'était l'avenir d'Internet, c'était le futur d'Internet, c'était ça.
On a l'impression que finalement l'IA, c'est un peu, si on fait l'analogie avec l'athlétisme, l'IA, c'est un peu le 100 mètres et le métavers, c'est le marathon.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on sait que le métavers, ce sera sur des années. Hein. Voilà, il le dit lui-même, Mark Zuckerberg. On est en train de construire quelque chose qui portera ses fruits dans 5 à 10 ans, alors que l'IA, c'est aujourd'hui, c'est véritablement la concurrence que tous les géants américains se mettent, ils s'affrontent avec ça, et je pense que, Meta est obligé de réagir.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, mais moi c'est un peu ce que je reproche en fait à Mark Zuckerberg, c'est de nous avoir un peu trop appâtés, on va le dire comme ça. Je pense qu'ils se sont, franchement, qu'ils ont fait une erreur monumentale sur le timing. Moi je continue à croire au métavers, même si effectivement il commence à se calmer un petit peu. Je continue à y croire, mais tu vois, il nous a proposé un produit, une promesse, en nous disant, voilà, vous allez pouvoir vivre une deuxième vie parallèle, un peu façon, tu sais, Ready Player One de Spielberg, vraiment, c'est ça qu'on s'imagine du métavers. Mais effectivement, dès le début, il nous a dit, oui, mais enfin, attendez, parce que la miniaturisation des composants, le temps d'avoir des casques qui soient suffisamment petits pour qu'il y ait une adoption de masse, le temps qu'on puisse...
Le soft aussi, les usages.
Les usages, le temps qu'on ait killer apps, qui donne vraiment envie au plus grand nombre de l'utiliser, le temps qu'on puisse avoir aussi des avatars photoréalistes, comme il nous l'a montré dans certaines présentations, mais il dit, attention, c'est pas prêt encore d'un point de vue technologique, mais ça ressemblera à ça à un moment. Enfin, je veux dire, c'est comme si on te présente un magnifique gâteau au chocolat, on dit, il est beau mon gâteau au chocolat,
mais vraiment, il donne envie. Là, il faut attendre un petit peu.
Voilà, il est en plastique, mais dans 10 ans, par contre, tu pourras le manger, le vrai. Hein,
tu vas te régaler.
Tu vas te régaler. Et dans la tech, ça fonctionne pas comme ça. Quand on nous montre quelque chose, il faut que la promesse soit tenue, on va dire, à relativement court terme. Enfin, c'est la force d'Apple, on en parlait, tu vois. Quand Apple, ils présentent leur iPad, pour qu'on puisse parler de ça, un mois après, l'iPad, il était dans les rayons, tu vois. Il faut que le produit soit un minimum prêt. Et là, je pense qu'ils sont un petit peu avancés.
Mais c'est vrai que je pense qu'en plus, Mark Zuckerberg n'a pas eu de chance dans cette histoire-là, parce que le climat technologique, au moment où il a lancé Meta, était plutôt tranquille. Finalement, on ne parlait pas encore beaucoup d'IA, il n'y avait pas, en fait, toute cette crise de la tech, il n'y avait pas aussi ce conflit géopolitique et les tensions qu'il y a entre l'Ukraine, la Russie, enfin plus que des tensions, et surtout entre la Chine et les États-Unis. Elles étaient là, mais c'était plutôt latent. Donc, dans ce climat qui était plutôt avec un ciel bleu, lancer quelque chose, on va dire, et des recherches sur 10 ans, ça avait du sens. Et puis là, tout s'est précipité.
Exactement.
La crise, l'IA, ChatGPT, qui donne une claque, en fait, à tous ces géants des réseaux sociaux, il est obligé maintenant
Quand l'argent coulait à flot, c'était plus facile, effectivement, de couler $1 milliard par mois dans un projet un peu à la fois pharaonique et très hypothétique dans ses débouchés potentiels.
Mais là, maintenant, les priorités ne sont plus les mêmes.
Tu l'as vu, hein, il a répété d'ailleurs, parce qu'ils ont annoncé quand même deux vagues de licenciements successives, Meta, et donc il dit voilà, c'est 2023, c'est l'année de l'efficacité, on revient à des produits qui rapportent de l'argent rapidement, etc. Et clairement le métavers n'en fait pas partie, en tout cas à court terme. Mais au-delà de Meta à proprement parler, on voit bien, quand je te parlais de signaux faibles, c'est aussi à droite à gauche, c'est par exemple Tencent qui dit finalement, ils avaient des grandes ambitions sur la construction de casques de réalité virtuelle et ils disent finalement on va arrêter. C'est Microsoft qui avait lancé une division réalité augmentée dédiée aux applications industrielles et qui, quelques mois après, la supprime.
Ouais, on ne sait pas trop si HoloLens a été arrêté ou mis en pause, en fait.
En tout cas, on voit qu'il y a un ralentissement.
Ouais, ralentissement, c'est assez clair.
Et même quand tu regardes d'ailleurs sur Google Trends, qui est toujours un bon indicateur de
la hype du moment.
Voilà, tu regardes Metaverse, il y a eu un pic énorme et puis là, ces derniers mois, c'est complètement retombé. Donc, on voit bien que, effectivement, pour des raisons à la fois financières et pour des raisons peut-être qu'on nous avait un peu trop vendu le truc, c'est en train de retomber un petit peu. Ce qui ne veut pas dire que c'est mort. Moi, je pense pas que ce soit mort. Et je pense même, au contraire, que ça peut être en fait une pause salutaire. C'est un peu comme dans le monde des cryptos, où les projets les plus sérieux et les plus intéressants, ils se construisent pas quand il y a le bull run de malade, quand les cryptos montent à fond, et où tu as une sorte de pression.
Ça fait des bruits parasites qui perturbent le projet.
Ouais, c'est ça, exactement. Et tu as une sorte d'urgence liée au marketing, à la communication. Il faut qu'on arrive avec un produit très rapidement sur le marché, etc. Et ça pousse à faire un peu n'importe quoi. Sur le métavers, tu te souviens, le bon indicateur de ça, c'est les communiqués qu'on reçoit, nous les journalistes. Tous les jours, on avait des trucs complètement abracadabrantesques à base de métavers.
Ridicules d'ailleurs.
Des trucs ridicules qui n'avaient aucun sens. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme. Et c'était pareil sur les cryptos. Mais quand la hype retombe un peu, c'est là que les projets peut-être les plus sérieux peuvent se construire dans la sérénité, loin justement de toute la communication, et peut-être pour revenir beaucoup plus fort quand les technologies, par exemple, de miniaturisation des casques seront prêtes, ou quand on aura inventé des killer apps, peut-être d'ici 5 ans. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que j'espère, parce que la promesse du métavers, je la trouve incroyable.
Ouais, c'est clair.
Ça me fait rêver, tu vois, j'ai pas envie qu'on s'assoie dessus. Force est de constater que c'est un petit peu retombé, quoi.
Le Quest Pro, vous savez, ce masque qui était sorti il y a quelques mois de cela, accuse une baisse de prix intéressante. Il a perdu 600 euros, là, en quelques jours. Bon, il est toujours à plus de 1000 euros, mais c'est l'un des signes aussi de ce que tu disais, c'est qu'à mon avis, ils ont dû en fabriquer beaucoup, ça part pas, donc ils sont obligés de baisser les prix. Et puis, est prévu toujours cette année en 2023, le nouveau Quest 3, qui est donc le successeur du 2, qui sera un casque beaucoup plus abordable et paraît-il très intéressant aussi. Donc voilà, malgré tout, Meta continue, garde son calendrier, mais c'est vrai qu'entre-temps, on n'est pas tout le temps en train de parler de métavers, etc., etc.
Exactement. Mais c'est vrai qu'ils ont, t'as raison, ils ont une roadmap qui est très solide. Hein. Et Zuckerberg avait fait une présentation où il montrait
des prototypes de ses futurs casques. D'un coup, tu vois.
Mais bien sûr, t'avais les gants aussi. Tu te souviens, les gants haptiques
qui avaient fait, c'était top.
Incroyable. Incroyable. Où tu pouvais toucher physiquement ce que tu vois à l'intérieur du casque. Il avait montré un prototype. Donc là aussi, il avait dit non, mais ce sera dans 5-10 ans, le temps qu'on arrive à miniaturiser tout ça. Mais la promesse est dingue. Enfin, tu te rends compte, t'auras un casque sur la tête et tu pourras toucher ce que tu veux d'ailleurs. On peut imaginer plein d'applications après.
Non, Anthony, s'il te plaît, je t'en prie.
On arrête. Je pensais à jouer au piano, moi, en réalité virtuelle, par exemple. Voilà.
Ah, pourquoi pas Touloulou, comme
exactement.
Ça pourrait être pas mal. Voilà, donc, pour ce métavers, il y aura plein de choses encore à raconter là-dessus. Évidemment, on suit toute cette actualité de près. Tiens, puisqu'on est toujours dans ces univers virtuels qui ont bercé pour certains bien notre jeunesse, on va revenir sur, la préhistoire du métavers.
Ah,
c'est Second Life.
Ouais, l'ancêtre du métavers, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, c'est souvent ça, quand on parle de métavers, dans les commentaires, ils sont juste, mais de toute façon, le métavers, ça existe depuis hyper longtemps. Ouais, Second Life, c'était déjà du métavers. World of Warcraft, c'était déjà du métavers d'une certaine manière. Alors, ça dépend de la définition précise qu'on y donne. Si effectivement, on parle d'un monde persistant où on peut vivre une deuxième vie virtuelle, alors effectivement, Second Life, et même World of Warcraft, on peut parler d'une forme de métavers.
C'est ça.
Après, si on veut coupler ça avec de la réalité virtuelle, on n'y était pas encore.
Ouais.
Mais c'est ça aussi.
Tu sais, c'est intéressant ce que tu dis. C'est le vocabulaire, la définition du mot métavers. Ça veut dire tout et n'importe quoi.
Bien sûr. Bon. Tu sais, à la base, c'est un mot qui vient d'un livre de science-fiction Neil Stephenson qui s'appelle Snow Crash. Alors, c'est marrant parce que du coup, il est revenu. Enfin, c'est un grand auteur de science-fiction, mais j'ai vu qu'il était par exemple à la Paris Blockchain Week. Où, tu vois, on le fait venir pour lui demander mais alors le métavers, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que c'est conforme à ce que vous imaginiez? Et tout. Donc c'est rigolo, ouais, tu vois, même rigolo. Pour lui, il a dû halluciner, t'imagines, quand il a vu Zuckerberg commencer à parler de ça et reprendre son mot. Bon, pourquoi pas. Mais effectivement, enfin, techniquement, tu vois, Second Life, c'était il y a 20 ans. Hein, 20 ans, c'était effectivement une prémisse du métavers. Et alors, ils reviennent sur le devant de la scène en lançant leur application mobile 20 ans après. Ça, c'est quand même dingue, quoi, tu vois. J'allais dire, tout le monde avait oublié, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a encore une communauté très active de joueurs sur Second Life qui doit être d'à peu près 1 million de personnes, donc c'est quand même pas rien. Mais c'était un phénomène de société. Il faut quand même se souvenir de ce qu'était Second Life à l'époque où on en parlait. Il y avait beaucoup de papiers, y compris dans la presse généraliste, des gens qui vivaient vraiment, qui avaient leur avatar virtuel, qui pouvaient faire du business dans Second Life. Il y avait des marques qui étaient implantées. Tu avais des hommes politiques qui ont donné des conférences sur Second Life. Quand je parlais des marques, tu avais par exemple, je crois que c'est Reebok qui avait une boutique virtuelle. Tu pouvais acheter tes baskets en mode virtuel et en mode réel. C'était un peu les prémices des NFT d'une certaine manière, même si c'était pas exactement la même technologie, mais tu pouvais acheter en tout cas des biens virtuels que tu pouvais aussi revendre. Tu avais le Linden dollar qui existe toujours, qui était une monnaie qui était corrélée au dollar. Enfin, il y avait un cours du Linden dollar, donc un peu comme les cryptos d'aujourd'hui, même si elles n'étaient pas inscrites dans la blockchain, donc c'était pas exactement la même chose. Mais en tout cas, il y avait cette idée de monétiser des biens virtuels. Il y a des gens, les premiers millionnaires virtuels sont nés dans Second Life. Tu avais une fille qui s'appelait Anche Schum, je crois que c'était une Allemande de mémoire, qui avait lancé son agence immobilière dans Second Life, tu vois, et qui avait créé une agence où elle achetait des biens, elle les décorait virtuellement et elle les revendait. Et elle avait gagné une fortune, elle avait fait la une de certains magazines économiques.
Enfin, incroyable.
C'est dingue, tu vois, cet univers qui s'était mis en place.
Voilà, qui s'éteint aussi vite qu'il est arrivé.
Ça a pris quelques années, mais effectivement, on a commencé à oublier Second Life à partir d'un certain moment. Puis je pense qu'ils ont un peu raté aussi.
La technologie n'était pas très prête, c'est vrai que c'était pas très beau.
Le moteur graphique n'était pas incroyable.
Ça saccadait. Ouais. On n'avait pas de connexion Internet aussi très rapide, donc ça mettait du temps à charger. Enfin voilà.
Etc. Ça c'est vrai.
Mais quand on se plonge là-dedans, moi souvent je fais le parallèle aussi avec le deuxième monde de Canal+, qui était incroyable en 97. Ouais. Je te rends compte. Et une initiative française qui était peut-être le premier monde virtuel qui avait été lancé par Canal et qui avait disparu en 2002, je crois, quelques années plus tard, parce que c'était pas prêt.
Mais c'est ça qui est intéressant. Le parallèle, on peut le faire aussi avec un truc qui n'a rien à voir, c'est les Google Glass qui vont, moi je pense, peut-être revenir sous une autre forme, c'est-à-dire avec des technologies. C'est en gros des gens qui sont trop en avance sur leur temps, c'est-à-dire qu'ont une intuition,
qui
se disent voilà le futur d'Internet.
Un rêve,
exactement. On va lancer le truc. La technologie, clairement, elle n'est pas prête. T'as raison, les moteurs graphiques dans Second Life. Alors même si à l'époque c'était tout à fait correct, mais ça a été très vite dépassé. Mais cette idée qu'on pourrait effectivement avoir une deuxième vie virtuelle, si t'as la technologie qui suit, si t'as des casques qui sont pas plus gros que des lunettes, avec des moteurs graphiques absolument dingues, avec la possibilité d'avoir un avatar photoréaliste, d'avoir une réaction, de te connecter, de déconnecter en temps réel, d'être en relation avec des collègues ou des amis instantanément, etc. Bah ouais, si, ça peut le faire en fait. Mais simplement, c'était pas prêt à l'époque, quoi.
Ouais.
Voilà. Non, mais moi je pense que ça va arriver à un moment ou à un autre. Je pense que ça va arriver.
Enfin, en tout cas pour les nostalgiques, replonger dans Second Life avec une appli mobile, donc.
À télécharger sur votre iPad première génération.
S'il fonctionne encore. Je suis pas sûr, je pense qu'il y a des applis qui marchent plus dessus.
Ouais, je pense que l'application Second Life fonctionnera pas dessus, de toute façon, il n'y a pas de doute. Mais...
dans l'actu aussi, c'est Microsoft. Alors voilà, Microsoft, on en parlait tout à l'heure, qui met en pause peut-être tous ses projets de réalité augmentée avec HoloLens. D'ailleurs, ça m'étonne parce que c'est fou, Microsoft a dépensé énormément d'argent. Ça fait 10 ans qu'ils sont sur HoloLens. On a tous essayé ces lunettes. Anthony, alors qui était loin d'être parfaite, mais qui proposait quand même quelque chose. Dans les usages industriels, hein, y a plein de boîtes qui se servaient de ça avoir des modes d'emploi éclatés de certaines machines.
HoloLens, c'est hyper bien. Enfin, pour l'avoir testé, c'est...
Visiblement, ils mettent ça en pause. Bah, ils en parlent moins.
Ils en parlent moins, effectivement. Alors, t'as raison de dire que les applications, elles sont avant tout industrielles, mais elles étaient très spectaculaires. J'ai toujours en tête, j'avais testé moi un truc sur... ça simulait la construction d'une voiture. Donc tu as la voiture qui arrive devant toi, tu as des gens aux quatre coins du monde qui voient la même voiture, tu peux interagir, tu prends la roue, tu dis ah ouais là sur la roue il faudrait qu'on change la jante, qu'on fasse ça, tu la passes à ton collègue qui est à côté mais qui est en fait au Japon. Bah, c'est génial, quoi. Enfin, vraiment, il y avait ce truc d'avoir l'impression de pouvoir quasiment toucher les gens qui sont en face de toi, les objets qui sont en face de toi, mais alors que tout est rendu possible par ce casque, alors qu'il est peut-être encore un peu trop encombrant, qu'il lag encore un peu, c'est vrai. Mais là aussi, je pense que ça va s'améliorer.
Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit que Microsoft, en revanche, accélère sur l'IA. Évidemment, le partenariat avec OpenAI et les investissements de 10 milliards n'y sont pas pour rien. Hein. Et tu voulais nous parler de Copilot, en fait, qui est une espèce de nouvelle fonctionnalité qui va arriver sur Office, dans plein d'outils d'Office, que ce soit Word, PowerPoint, etc. Et qui, alors là, sont pour certaines complètement bluffantes.
C'est ça. En fait, l'idée de Microsoft, c'est de mettre du GPT-4 absolument partout. Et donc, ça prendrait la forme d'un petit bouton, donc Copilot, qui serait intégré dans tous les logiciels de Microsoft. Et donc, tu cliques sur ce bouton et tu vas avoir accès à l'interface GPT-4 qui va venir t'aider. Je te donne quelques exemples concrets. PowerPoint, tu fais un PowerPoint. Bon, tu sais pas trop comment t'y prendre avec ta présentation. Ben ouais. T'es un peu en galère. Bon, tu as la thématique, tu as 2-3 points clés. Et c'est tout. Bah, tu appuies sur Copilot, tu lui donnes tes indications, tu lui dis voilà, je voudrais une présentation en 10 slides, en 15 slides autour de ça. Là, il te fait un déroulé complet, hyper propre. Et après, tu peux évidemment personnaliser, tu peux changer des trucs, etc. Mais en tout cas, tu as ta trame qui est complète.
Ouais.
C'est quand même
c'est incroyable.
Génial. Enfin, le temps que tu vas pouvoir gagner avec ça, c'est extraordinaire. Mm-hmm. Ça, c'est un exemple. Tu vas pouvoir l'avoir dans Outlook. Bon, bah, la perte de temps des mails chaque jour. Tu as la conversation avec 15 personnes, tu sais, qui s'échangent des mails. Les trois quarts des mails ne te concernent pas. Tu dis, bon, vas-y, résume-moi ce fil. Il va te résumer les trucs avec les points les plus importants, ce qui te concerne, ce qui ne te concerne pas. OK, réponds-moi. Fais-moi une réponse en mettant en avant tel point, hop, t'as la réponse qui est prête, tu l'envoies, c'est terminé. Ça, c'est pour les mails. Tu vas intégrer aussi Copilot dans Teams pour les visioconférences, où tu vas pouvoir avoir ce petit outil qui va suivre la conférence pour toi. Par exemple, si tu arrives en retard, il va te faire un résumé de ce que tu as raté. Si tu pars trop tôt, il va te faire un résumé de ce que tu as raté à la fin. Donc là aussi, des gains de productivité, un résumé de la visioconférence si tu le souhaites. Enfin, voilà, c'est quelques exemples, mais si tu veux, ça donne bien une idée des applications très concrètes de ce que va pouvoir nous apporter en fait GPT-4 ou GPT-4, je ne sais jamais comment dire, j'alterne. je ne sais pas trop sur quelle chaise me mettre. Mais en tout cas, voilà, des premières applications concrètes de cette technologie qui est absolument incroyable, en plus évidemment de l'intégration dans Bing qui est dingue. Enfin, moi, je vais te dire, j'utilise maintenant plus Bing que Google. Moi,
ça y est. C'est dingue.
Ben ouais, je sais pas.
Alors, tu te sers donc de GPT-4.
Ouais.
Et tu t'en sers pour le travail ou simplement pour...
Je m'en sers beaucoup pour le boulot.
Pourquoi, par exemple ?
Bah écoute, par exemple, sur des chroniques, quand je fais une chronique sur une thématique, alors avant, je faisais mes recherches sur Google, en plus de, tu vois, des infos que tu as,
bien sûr,
etc. Mais voilà, là, bah, par exemple, si je cherche des illustrations concrètes sur une thématique donnée, je vais lui dire, bah, vas-y, GPT-4, qu'est-ce que j'ai fait hier ? Je vais te donner un exemple très concret. J'ai fait une chronique sur des startups qui nous aident à optimiser notre consommation d'eau. Donc tu vois des boîtes qui ont créé un disjoncteur à eau qui coupe le système quand t'as une fuite, des robots qui vont détecter les fuites dans les canalisations, etc. Donc j'avais 2-3 exemples, tu vois, donc j'avais de quoi faire ma chronique, mais je disais, ce serait bien si j'avais quand même d'autres exemples. Alors en temps normal, alors je l'ai fait d'ailleurs, je suis allé chercher sur Google, c'était pas très concluant, j'arrivais pas trop, machin. J'ai posé la même question à GPT-4, je lui ai dit, vas-y, je suis en train d'écrire une chronique sur cette thématique-là.
Ah, donc tu lui donnes le contexte.
Je lui donne le contexte, exactement. Est-ce que tu peux me trouver des startups françaises, que je cherchais des startups françaises, qui travaillent sur ce sujet-là et qui nous trouvent des solutions ? Et là, il te fait une liste. Bon, ok, est-ce que tu en as d'autres ? Il te refait une liste. Mais c'est génial, en fait. C'est génial. Et en plus, ce qui est bien sur Bing par rapport à ChatGPT classique, c'est qu'il te met les sources. Donc pour nous, les journalistes, c'est hyper important.
C'est super. Et
tu peux cliquer sur les sources. Donc tu peux aller voir où il a trouvé telle ou telle info. Tu dis, ah ouais, ça, c'est pas mal et tout. Et ben voilà, moi, enfin, je vais te dire concrètement, ça me fait gagner un temps fou.
Ça te fait gagner du temps.
Ça me fait gagner un temps fou. C'est un exemple, tu vois, mais je m'en sers vraiment de plus en plus, je me rends compte. Mais dites-nous si, moi, je fais ce constat que maintenant, je crois que je l'utilise plus que Google au quotidien. Ce qui est quand même on m'avait dit il y a 6 mois
que tu allais utiliser
Bing que Google, j'aurais dit, ouais, d'accord, j'attends de voir quand même. C'est assez dingue quand même.
Tiens, puisqu'on évoque Google, il faut savoir que là aussi, Google sort du bois avec Bard, hein, qui n'est pas encore. Vraiment disponible un peu partout, mais on voit que Google ouvre un peu les vannes aux États-Unis, au Royaume-Uni. On peut s'inscrire à une liste d'attente pour que, en fait, n'importe qui puisse tester ça. On va voir.
On a hâte de tester.
Ouais. On voit que eux aussi sont évidemment là-dessus. Et j'imagine que, on le disait, on le répète, hein, chez Google, ça doit être le feu. Constater que Microsoft est en train de prendre de l'avance sur un truc sur lequel ils travaillent depuis des années et des années, Google, ça doit être terrible.
Mais c'est ce qui est hyper intéressant, je trouve, avec ChatGPT, ça a été un accélérateur absolument dingue, et tous les spécialistes de l'IA avec lesquels on peut discuter nous disent ça. C'est-à-dire qu'en gros, ces technologies, elles étaient un peu en gestation depuis des années, elles existaient dans les laboratoires de recherche, elles étaient là, le grand public ne le savait pas ou le savait marginalement, tu vois, l'actualité tech, tu savais qu'il y avait des projets, etc. Et là, ça a été une sorte de pavé dans la mare qui a forcé tout le monde à y aller. Et c'est vrai, tu as raison, pour Google qui n'était pas du tout prêt à sortir, donc Bard, ça les a un petit peu bousculés. Et d'ailleurs, on parlait des applications dans le domaine professionnel, Copilot pour Microsoft, ils ont annoncé des choses extrêmement similaires pour Google Docs, enfin pour toute leur suite logicielle, avec par exemple des outils qui vont permettre, pour Google Sheets, qui est l'équivalent d'Excel, par exemple, tu un tableur qui est un peu indigeste, tu lui demandes, vas-y, fais-moi une explication de texte de ce tableur, et il te fait un résumé, il t'explique, etc. Enfin voilà, des trucs comme ça, ça va être très intéressant. Mais c'est pas seulement eux, c'est aussi Facebook, on le disait, Meta qui travaille sur le sujet, et c'est plein d'entreprises aussi qui sont plus petites, qui sont moins connues, y compris en France. Ce matin, sur BFM Business, là, on avait une... Ah, faut que tu les fasses venir dans Tech & Co, enfin peut-être que tu les connais déjà, c'est une boîte qui s'appelle Lighton, et qui... Tu les as eues ?
Oui, c'est une boîte d'IA pour les entreprises françaises.
Exactement, et qui a une technologie qui est comparable à celle de ChatGPT, avec en plus, parce que tu as tous les enjeux de souveraineté nationale. Donc c'est nous, on a la même technologie, mais on garantit, si vous voulez, que vos données ne vont pas partir
toutes
dans la nature,
restent, en fait, dans l'entreprise. Dans une machine, en quelque sorte.
C'est génial, mais eux aussi, si tu veux, ils n'étaient pas, tu vois, le ChatGPT, alors à la fois les a forcés à sortir du bois, et en même temps leur donne une visibilité dingue, parce que maintenant tout le monde veut acquérir ce genre d'outils, quoi. Donc je trouve que encore une fois, on vit un moment assez extraordinaire, hein, de ce point de vue-là. Ça va être, c'est dingue ce qui est en train de se passer. Dingue.
Ouais. Tiens, puisque tu parles de Tech & Co, justement, hier, j'ai reçu aussi un super truc. Peut-être que tu en as parlé. D'ailleurs, vous avez vu, on est entre nous, on s'échange nos idées de chronique.
Bah ouais.
Mais c'est la mairie de Plaisir. Je sais pas si tu as vu ça. C'est donc une petite ville, hein, la ville de Plaisir, qui s'appelle comme ça, et qui a transformé son standard et a connecté de l'IA. C'est-à-dire que quand tu appelles donc la mairie, eh bien, tu as une voix qui est quasi normale. spécial qui te, avec qui tu dialogues et qui va te répondre quand tu poses des questions.
Ah, j'ai pas vu ça.
Alors, c'est pas encore ChatGPT, c'est-à-dire que les questions sont pré-mémorisées et ça va répondre à peu près à 50% des requêtes des administrés, parce qu'en général, t'appelles pourquoi ? Bah, parce que tu veux renouveler ta carte d'identité, ton passeport, tu veux savoir où j'achète, où tu dois acheter le timbre fiscal. Donc, ils ont repéré toutes les données qui étaient le plus souvent, enfin, toutes les questions qui étaient le plus souvent posées. Et donc, si tu veux, tu as un dialogue avec cette machine. C'est plutôt cool. C'est
incroyable.
Une start-up qui fait ça.
Ah, hyper
avec la mairie de plaisir. Et c'était encore de l'IA. Et je posais la question au patron de cette start-up qui disait ChatGPT va arriver cette année. Et là, on est à la préhistoire avec ce qu'on a fait là, avec la mairie de plaisir. Demain, ça pourra générer des réponses, même si elles ne sont pas préenregistrées. Ouais. Et là, il nous a dit, c'est un truc de dingue.
Ça, j'y crois à fond. Mais tu te souviens de la présentation, là encore, quand on parle d'être en avance sur son temps, c'était Google, lors d'une Google I.O., donc Developer Conference, il y a quoi, 3-4 ans, où ils avaient fait cette démo d'une IA qui appelait un salon de coiffure. Tu te souviens de ça? Elle était dingue, cette démonstration, surtout à l'époque, parce qu'on parlait beaucoup moins, justement, des IA génératives, et, etc. Et en gros, c'était une IA donc qui crée un spectre vocal qui recrée même toutes les petites imperfections du langage, les petites hésitations, etc. Et qui passait des coups de fil, par exemple, pour réserver à ta place une table dans un restaurant ou prendre un rendez-vous dans un salon de coiffure. Et donc ils appelaient, alors je sais pas dans quelle mesure c'était mis en scène ou quoi, mais de ce qu'on comprenait, c'était des gens qui n'étaient pas au courant. Ils appelaient un vrai coiffeur ou un vrai restaurateur et jamais tu faisais la différence. Tu avais vraiment l'impression d'avoir un humain au téléphone alors que c'était une machine qui t'appelait et qui prenait un rendez-vous pour toi.
Bon, tu sais qui on a au téléphone là ?
Vas-y, dis-moi.
J'ai l'impression qu'on a Donald Trump.
Ouais, c'est clair. Bah, quand on parle de d'IA,
tu sais qu'il est un peu moins populaire, etc. Il a enfin accepté de nous parler dans De quoi je me mail. Vous nous croyez pas ? Bah, écoutez, on a Donald Trump là qui nous a envoyé ce petit message.
Hi, this is Donald Trump. You're listening to De quoi je me mail, the best tech podcast in the world. I really love François Sorel. He is an amazing guy. Make France great again.
Merci,
pas mal,
Donald.
Pas mal.
Ça, franchement, ça me fait plaisir.
Bah écoute, petite dédicace, François. Moi, il a pas parlé de moi.
Il a rien dit sur toi, dis donc.
Non, visiblement. Bah, s'affiche, quoi.
Écoute, bon,
non, mais c'est pas grave. C'est pas mal déjà.
L'avantage, c'est qu'on pourrait lui faire dire et citer ton nom.
Ah bah tu peux l'ajouter, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je peux le faire parce que c'est moi qui fais le montage. Donc il n'y a pas de souci, je vais le rajouter. Oui, j'avais fait, au début, j'avais fait la même, mais j'avais dit j'aime beaucoup Anthony Morel et d'ailleurs, il faudrait lui donner une grosse augmentation. Mais voilà, je me suis dit c'est trop gros.
Ouais, c'est trop gros,
pas.
Ça passera pas. Et puis si Donald Trump le dit, c'est pas sûr que ça passe aussi.
C'est ça.
Quoi.
Alors que là, on y croit, tu vois. Là,
ouais.
Vraiment, donc de quoi je me mêle. Et donc, alors, pour expliquer un petit peu.
Mais c'est impressionnant déjà.
C'est dingue,
on a vraiment l'impression d'écouter Donald Trump.
Ouais, absolument, c'est très spectaculaire et donc c'est ce qui est rendu possible par des IA génératives dans le domaine de la voix, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de cloner n'importe quelle voix à partir d'un petit enregistrement. Là, c'est un outil que vous pouvez tester qui s'appelle Eleven Labs, donc Eleven comme le chiffre, Labs, L-A-B-S, et qui propose donc que vous lui envoyez une minute d'enregistrement de n'importe qui. Donc là, je l'ai fait avec Donald Trump, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez, un ami, à partir d'un message vocal même, si vous voulez. Et à partir de ça, il va décomposer le spectre vocal, le recomposer à la demande, et donc vous tapez du texte au clavier, et il va répéter ce texte comme un perroquet, en fait. Alors, attention quand même, là je l'ai fait avec Donald Trump parce qu'il a une voix qui est reconnaissable immédiatement et surtout parce qu'il est américain, ça fonctionne pour l'instant qu'avec des voix anglaises et américaines. Je l'ai testé avec des voix françaises, vous pouvez essayer, vous amuser. Il reproduit effectivement la voix, mais il y a un gros accent américain comme ça, donc c'est pas très probant en français. Mais pour les voix américaines, c'est absolument dingue, c'est absolument dingue. Le résultat est donc évidemment avec toutes les dérives que ça peut engendrer, parce que tu peux imaginer évidemment qu'on peut faire dire absolument n'importe quoi à n'importe qui.
Et quand tu vois aujourd'hui qu'on arrive à avoir des vidéos qui arrive à transformer les personnalités, les intégrer, les déguiser, leur faire dire n'importe quoi, on mixe ça, ces images, avec ce son.
Ah oui. Exactement.
On y est là.
Là, on est sur du deepfake de haut niveau et qui va. Enfin, je le dis souvent, mais en matière de fake news, on a encore mais rien vu. Mais c'est de la rigolade pour l'instant ce qu'on a. C'est-à-dire que quand on voit la crédulité moyenne des gens, et je me mets dans le paquet, hein, des fois tu peux être pris de court, etc. Même par une photo, une publication,
bien
des fois c'est un peu gros et t'y crois. Mais là, tu auras vraiment Donald Trump ou n'importe qui d'autre qui te dit ce truc, tu vois ses lèvres bouger, tu entends sa voix, c'est réellement sa voix, bah écoute, bon courage pour faire la différence, quoi, et pour savoir si c'est du vrai ou si c'est du faux. On l'a vu aussi d'ailleurs avec Midjourney, hein, cette semaine, où il y a eu par exemple des fausses photos de Donald Trump qui se débattait, qui était arrêté par la police et qui essayait de s'enfuir, et franchement, t'avais l'impression que c'était la réalité.
Ouais, c'était impressionnant.
Mais là, pour la voix, c'est absolument dingue. Et donc, sur les dérives qu'il y a eu, alors certaines sont devenues virales, où t'as par exemple eu Emma Watson, c'est l'actrice, à laquelle on a fait lire des extraits de Mein Kampf, donc très très fort, tu vois, mais c'est dingue parce que t'as vraiment l'impression que c'est elle, en fait, enfin, t'y crois à 100%, en fait, si tu le sais pas, c'est impossible de savoir, quoi.
Très spectaculaire. Ça va être difficile de légiférer tout ça, on pourra pas, je pense.
Je pense que c'est toujours pareil, on n'arrête pas la marée avec une serpillière, moi je pense pas qu'on puisse, enfin, qu'est-ce que tu veux faire réguler, enfin, c'est compliqué, c'est-à-dire que les constructeurs, les fabricants de ces logiciels eux-mêmes peuvent mettre des règles, et c'est ce qu'ils ont commencé à faire, par exemple, là, sur Eleven Labs, parce qu'ils ont été pas mal critiqués, il y a eu une petite polémique, donc ils ont commencé, je crois, à un peu plus vérifier les gens qui s'inscrivaient, à interdire un certain nombre d'imitations. Midjourney, par exemple, c'est pareil, ils ont commencé à limiter les prompts que tu pouvais faire, donc les demandes que tu pouvais faire pour justement limiter les fake news, mais je pense que franchement, on n'y arrivera pas, quoi. Il va falloir trouver d'autres solutions, parce qu'on ne pourra pas réguler ça, interdire ça paraît quand même très très compliqué. Après, il y a aussi des applications qui sont hyper positives, c'est-à-dire que là, par exemple, le clonage de voix, t'imagines, dans le domaine du jeu vidéo, par exemple, tu vas pouvoir avoir le personnage principal d'un jeu vidéo qui parle avec ta voix, par exemple, qui va être reproduit.
Ou qui, en temps réel, via la situation, pourra parler et vraiment réagir à ce qui se passe vraiment, ça sera plus pré-enregistré.
Exactement.
On peut imaginer dans le cinéma aussi.
Dans le cinéma, bien sûr. Voilà. Pour le doublage, alors on va dire, c'est une bonne nouvelle, mais enfin, pour les doubleurs, c'est pas forcément une bonne nouvelle.
Non, mais par exemple, pour, créer des comédies virtuels, des choses comme ça.
Pour faire revivre un comédien qui est décédé.
Alors ça, c'est un sujet un peu touchy, mais c'est vrai qu'on peut imaginer des trucs comme ça.
Et tu as aussi les applications médicales où tu vas pouvoir redonner une voix à ceux qui l'ont perdu. Il y a des maladies où voilà, tu perds, tu n'as plus de voix. Là, en fait, on va pouvoir synthétiser ta voix et ensuite, il suffira de taper à l'ordinateur et ce sera voix qui parlera. Tu vois, enfin, voyons aussi le verre à moitié plein, heureusement. Mais c'est vrai que ces technologies de clonage de voix, elles vont quand même poser plein de questions au-delà du technologique qui vont aller vers juridique, éthique, philosophique, il y a plein de choses qui vont se... Parce que le truc de Donald Trump,
c'est impressionnant.
C'est hallucinant, quoi. Hallucinant.
On va terminer par l'Apple Watch. Alors, non pas qu'il y ait de nouvelles rumeurs concernant une nouvelle Apple Watch, c'est rien de tout ça, mais en revanche, une chose est sûre, l'Apple Watch est sans doute l'un des produits technologiques les plus intéressants, parce que c'est l'un des rares produits technologiques qui sauve des vies depuis des années, Anthony.
Ouais.
Apple en parle, mais pas énormément, c'est-à-dire que de temps en temps, Tim Cook publie un mail, c'est très malin d'ailleurs, un mail qu'il a reçu d'un utilisateur qui lui raconte un petit peu ce qui s'est passé, grâce à l'Apple Watch, vous m'avez sauvé la vie, etc. C'est très, très encadré, parce qu'ils n'ont pas envie aussi d'aller très très loin là-dedans, mais le constat est clair, l'Apple Watch sauve des vies, et plusieurs vies.
T'as raison de dire qu'ils sont assez modestes sur ce coup-là.
Ouais. Et je trouve qu'ils sont plutôt malins, c'est plutôt intelligent.
Moi, je pense aussi parce que c'est intelligent, parce qu'en fait, c'est de la pub gratuite. Ils n'ont pas besoin d'en rajouter.
Non.
Parce que tous les médias en parlent, aux États-Unis notamment. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une vie est sauvée par l'Apple Watch, a eu une alerte sur son Apple Watch et il est allé à l'hôpital et on lui a diagnostiqué un problème au cœur, sinon il serait mort. Et là, il y a eu une illustration cette semaine, c'est pour ça qu'on en parle. C'est donc qui a un peu fait parler d'elle dans la presse américaine aussi. Et donc c'est un monsieur qui s'appelle Ken Cunyan qui habite à Cleveland. Et donc il utilise son Apple Watch pour le fitness et pour poursuivre son sommeil, etc. Et puis un jour son Apple Watch, alors d'habitude c'est l'électrocardiogramme souvent qui donne les alertes, et là c'est le capteur de respiration qui lui dit ta respiration est anormale, un peu plus élevée que la moyenne, donc il va à l'hôpital décèle rien, ils font une radio, rien du tout, il rentre chez lui. Quelques heures plus tard, c'est le capteur de taux d'oxygénation du sang qui lui dit t'as un taux qui est pas normal. Son fils insiste, si va à l'hôpital, on sait jamais. Il va à l'hôpital, on lui fait un scanner et il s'avère qu'il avait des caillots de sang dans les poumons et les médecins lui disent...
Il commence à faire une embolie pulmonaire sans doute.
Alors ça doit être ça, alors je suis pas médecin mais t'as raison, c'est peut-être ça. Et en tout cas les médecins lui disent, si vous n'étiez pas venu, si vous n'aviez pas obéi aux recommandations de votre montre, vous ne seriez peut-être pas réveillé demain matin.
Wow.
Tu vois le truc, enfin, c'est quand même vertigineux. Tu te dis là, ces montres connectées qui ont été au début, tu te souviens au début, c'était quand même, c'était des podomètres améliorés. Enfin, tu vois, il y avait un côté un peu gadget.
Et on se disait, mais à quoi ça sert, quoi, le fait d'avoir son SMS sur le poignet
Bah voilà. Et en fait, là, on voit à quoi ça sert. C'est-à-dire que vraiment, c'est devenu non pas un médecin, il faut être clair là-dessus, mais un assistant médical, c'est-à-dire qu'il va te lancer un lanceur d'alerte, en fait. Voilà, il va dire, voilà, il y a un truc qui ne va pas. Vas-y, va chez le médecin, va voir, il y a probablement un truc. Et en fait, ça s'avère, enfin, c'est la réalité là, très très souvent. Quand tu ajoutes à ça les capteurs pour la détection d'accidents de voiture, les fonctions SOS pour quand tu es perdu au milieu de nulle part, etc., tu te retrouves quand même avec des petits objets qui sont
fort utiles.
C'est pas mal, quoi. Ouais. C'est pas mal. C'est en tout cas beaucoup mieux que, pour le coup, le truc qui est sorti au début et qui était vraiment un petit gadget. Et on sait bien qu'Apple a plein d'ambitions dans ce domaine-là, qui veulent ajouter d'autres capteurs, d'autres briques technologiques. On avait parlé il y a quelques semaines de la glycémie, par exemple, des capteurs qui pourraient analyser le taux de sucre dans le sang pour les patients diabétiques, par exemple. Enfin, voilà, on sait qu'ils ont plein d'ambitions, qu'ils veulent aussi intégrer dans les AirPods des fonctionnalités pour analyser la température, la posture, etc. Apple est en train de devenir une entreprise de santé.
Oui, c'est clair.
Tim Cook l'a dit, de toute façon. Et je pense que ça fait aussi partie de... Je pense qu'il pense à la suite, Tim Cook, il pense à l'héritage qu'il laissera à la tête d'Apple. Enfin, il est là depuis longtemps, maintenant.
Et il laissera sans doute l'héritage de l'Apple Watch. Ouais. Ça, c'est clair.
Et de cette idée de faire d'Apple une entreprise de santé. C'est-à-dire pas seulement celle qui fabrique les iPhones, mais celle qui... j'allais dire prend soin des gens, évidemment c'est pas ça, c'est évidemment pas des philanthropes, mais en tout cas
qui améliore la qualité de vie et le confort des gens, ça c'est clair.
Moi je pense que c'est vraiment, il a ça en tête, il sait qu'il restera pas après, il a dit d'ici la fin de la décennie je partirai certainement. L'héritage de Tim Cook ce sera aussi celui-là, je pense,
c'est clair, deux nouvelles fonctionnalités qui devraient arriver dans les prochains mois ou les prochaines années. La tension artérielle,
ça c'est fou aussi,
très important. C'est compliqué, mais je sais que Apple y travaille. Et puis le taux de glucose dans le sang, qui permettrait à toutes les personnes diabétiques d'avoir en temps réel leur glycémie. Et ça, on y est presque. Apple travaille aussi là-dessus, donc on voit que petit à petit, ils rajoutent des fonctionnalités hyper importantes.
Ça, c'est une révolution, parce que le diabète, c'est pareil, dans le monde,
il y en a, millions et des millions de gens, c'est terrible. Et bien voilà l'actu de cette semaine avec Anthony. Merci Anthony.
Merci François, merci à tous.
Pour ton analyse, ton enthousiasme et ta passion sur la tech, comme toujours. Et vous restez avec nous, on va attaquer notre deuxième partie de Quoi je mêle avec Christophe Joly, qui va revenir sur l'histoire de l'iPad. C'est en deuxième partie, vous restez là, à tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Le retour de quoi je me mêle avec notre deuxième partie, et cette deuxième partie sera dédiée à un produit iconique sorti il y a quasiment 13 ans, voire jour pour jour, en tout cas pour sa sortie aux États-Unis. C'était en avril 2010 et on va en parler avec Christophe Joly qui est avec nous. Salut Christophe.
Bonjour François.
Le produit star donc, iconique, qui fête ses 13 ans, c'est l'iPad.
Oui, c'est l'iPad. Pour rappel, c'était l'une des dernières interventions de Steve Jobs, l'une de ses dernières keynotes. C'était le 27 janvier 2010, donc il présentait l'iPad. Ça avait beaucoup fuité, donc les gens avaient déjà pas mal d'éléments dessus.
On savait effectivement.
Voilà, on savait beaucoup de choses. D'habitude, les keynotes, c'est vraiment très très secret. Et on se rappelle de la dernière phrase de Steve Jobs, « One more thing », c'était le dernier truc et c'était un peu la surprise du chef. Il est sorti aux États-Unis, on l'a dit, le 3 avril 2010. Et le 28 mai 2010, il est arrivé en France avec du retard, parce que la demande a été si forte. On va le voir tout à l'heure, c'était pas gagné, mais la demande a été forte et à tel point que bah ils pouvaient pas suivre et c'est arrivé un peu plus tard en France. Je te rappelle. Le contexte high-tech de l'époque, le Bitcoin et WhatsApp ont été lancés l'année passée. La loi Adopi avait été adoptée, on est en 2009. En 2010, c'est l'année du lancement du premier Samsung Galaxy S1, on en est au 23 aujourd'hui.
Excuse-moi, je te coupe, mais 2009, le lancement du Bitcoin, à l'époque, ça coûtait rien.
Et aujourd'hui
ceux qui en avaient acheté, qui les avaient conservés aujourd'hui sont, pour certains, s'ils en avaient plusieurs, millionnaires.
Ouais,
quoi.
C'est probable.
C'est incroyable.
Et ceux qui se sont fait rattraper par la loi depuis, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais peut-être pas grand-chose. C'est l'année de l'iPhone 4 qui sera lancé en juin, donc au moment du lancement de l'iPad, on est sur l'iPhone 3. En octobre, Windows Phone est lancé avec son système, son OS Sam de Tuiles, je ne sais pas si tu te rappelles,
oui.
Bon, qui a fait long feu, hein, qui a disparu en, oui. en 2019. Instagram est lancé le même mois, en 2010. Est-ce que tu connais, j'ai découvert ça, d'où vient le nom d'Instagram ? Est-ce que ça veut dire ? Moi, je ne le savais pas. En fait.
Non.
Ça veut dire, c'est la contraction de Instant Camera et de Telegram.
Tiens.
On apprend des choses. Hein.
Ah ouais, ouais, ouais.
Et Siri, Chrome OS et Snapchat n'existaient pas en 2010.
Siri, Chrome OS et Snapchat, eh bien voilà,
ouais.
Ça n'existait pas.
Et maintenant, ça fait partie de notre quotidien.
Ouais. Moi, je me souviens de cette présentation de Steve Jobs. Évidemment, voilà, avec le recul, on la regarde avec nostalgie, mais il s'était installé sur son petit canapé, les jambes croisées, en train de manipuler son iPad. Et c'est vrai qu'on était tous bluffés par ce type d'appareil. On se posait déjà la question, hein,
on va raconter
parce qu'on a,
oui, oui.
On a une histoire en commun
on
sur ce sujet.
Oui,
mais c'est vrai qu'on se souvient on se posait la question, est-ce que ça va remplacer un PC ? Est-ce que ça va remplacer un smartphone ? À quoi ça sert vraiment ? Est-ce qu'on va trouver des usages ? Moi, c'est vrai que j'étais assez circonspect à l'époque.
Et je me rappelle des échanges qu'on a pu avoir, et c'était le problème au moment du lancement de cet iPad, c'est son positionnement très très flou selon les observateurs qui arrivent sur un marché où les tablettes n'existent pas en fait. Alors certes, il y avait l'Arcos 70 mais qui était quand même assez marginal sur son marché,
ouais.
Et puis les gens
fabricant français qui a disparu depuis. Hein.
Qui a disparu depuis, et globalement les critiques étaient assez mauvaises, et le Galaxy Tab qui ne sera dévoilé qu'en septembre, et qui coûtait plus cher que l'iPad d'ailleurs. Selon un analyste GFK que je vais citer, entre des notebooks vendus à bas prix et des ultra-portables tirant sur le haut de gamme, la pertinence de l'offre du produit, donc iPad, reste à prouver. Ceux qui peuvent prévoir, et là c'est le vice-président de Dell qui s'exprime, ceux qui peuvent prévoir le futur de la tablette sont soit des gens qui travaillent pour Apple, soit des personnes qui ont trop fumé. C'est une déclaration qu'il avait fait dans le Wall Street Journal, donc quelque chose d'assez sérieux. Moi je me rappelle, on en avait parlé, mais en fait iPad il fallait inventer la vie qui va avec, un peu comme la Twingo en son temps.
Ouais,
et désormais, bon, on peut dire que ça s'est imposé quand même.
Ouais, c'est vrai. Et puis, on était bluffé par le design, hein, évidemment.
La finition,
le
produit.
Très joli produit,
oui.
Ultra fin, avec ce grand écran tactile. On avait l'impression d'avoir un iPhone immense entre les mains. Et puis voilà, quoi. Et puis les applis étaient là.
C'était un vrai produit hybride, en fait.
Ouais.
Trop grand pour un téléphone, pas assez pour un ordi. Je vais reprendre le communiqué de presse d'Apple de l'époque. Ils disent qu'il s'agit d'un appareil révolutionnaire pour surfer sur le web, communiquer par email, profiter de ses photos, regarder des vidéos, écouter de la musique, jouer, lire des livres électroniques et bien plus encore. Ça montre bien la polyvalence, et je reprends un propos de Steve Jobs lors de ce keynote. iPad, c'est notre technologie la plus avancée dans un appareil magique et révolutionnaire à un prix incroyable. Alors incroyable, oui, parce qu'il était quand même assez coûteux. Écoutez, bon, je vous donnerai les prix tout à l'heure, mais c'était à partir de $500 ou 500 euros en France.
Oui.
Ce qui était un bon prix quand même. Un petit point sur la technique,
oui.
La fiche technique du produit, et il mesurait...
Donc là, on est sur le premier iPad. Hein.
Premier, ouais, le tout premier. Et après, je vais te donner l'iPad 10, le dernier,
ouais.
Et tu vas voir que peu de choses ont évolué. Alors, le cœur de la machine, évidemment, mais
bien
la
sûr,
forme...
L'écran, etc., mais l'essence même.
Voilà, sur le reste, on est sur de l'amélioratif, on va dire. Il mesure un peu plus de 24 cm de haut, 19 cm de large, 13 mm d'épaisseur,
mm-hmm.
Ce qui est assez élevé, parce qu'aujourd'hui, il fait 7 mm d'épaisseur,
ah oui.
L'iPad. 680 grammes, alors c'est deux fois moins qu'un notebook, mais à l'époque, toi, tu lui reprochais d'être un peu lourd à ce produit.
Oui, c'est vrai, et puis surtout, moi, je me souviens...
Trop lourd pour le tenir dans la main, en fait.
Pour le tenir, et puis surtout le manipuler, on ne savait pas trop, ça glissait, on ne savait pas trop comment
c'est
le tenir.
C'est l'un des reproches qui était formulé,
oui.
Il était un peu long, on ne savait vraiment pas trop comment l'attraper. Il avait un écran rétroéclairé LED multitouch de 9,7 pouces, une définition de 1024 par 768 et 132 pouces
points par pouce.
Ouais, point par pouce. Il pouvait basculer en mode portrait-paysage comme l'iPhone. Je me rappelle d'une blague que tu avais fait à Jérôme Colombin en disant que lui avait eu la version verticale et qu'il s'était fait avoir que toi tu avais la version horizontale.
J'étais déjà très drôle à l'époque.
Oui,
hein.
Déjà, vous deux vous formiez déjà. L'iPad utilise une puce A4 1 GHz, une 256 mégas de RAM, une autonomie de 10 heures. Et la promesse était tenue, en continu, en regardant des vidéos, vous étiez à 8 heures, donc c'était quand même pas mal. Il avait un connecteur, je ne sais pas si vous vous rappelez, un dock de 30 broches.
Oui, c'était l'ancêtre en fait du Lightning. Hein,
c'est
l'époque.
Ça. Et là, aujourd'hui, on est sur de l'USB-C, il n'y avait pas de capteur photo, et une seule couleur. Il était vendu uniquement en gris, côté prix, il était à 500 euros pour le 16 gigas, et vous rajoutiez 100 euros ou 100 dollars pour avoir le 32 ou le 64 gigas, et 130 dollars pour un modèle Wi-Fi et cellulaire.
Oui, c'est vrai que déjà, ce produit existait en plusieurs versions, hein. Il y avait plusieurs stockages, il y avait aussi le Wi-Fi ou la 3G.
Voilà, et il fallait choisir gris. Ou gris.
Gris ou gris, avec
voilà.
Une couleur.
Avec
en
une
effet.
Couleur. Mais ouais. Son dos en alu était joli, vous l'aviez dit, la finition était sympa. Je vais reprendre le titre de ce que publié par 01net à l'époque. On a testé l'iPad d'Apple, c'est un ordinateur qui fait oublier l'ordinateur. C'est quand même révélateur de sa capacité à produire quand même beaucoup de choses. Et c'est très rapide et ça les met en un très rapidement par rapport à un ordi. Où il fallait un petit peu de patience, surtout quand on utilisait un Windows. Donc le design et la qualité de fabrication avec son Dornalu étaient salués. La qualité d'écran, lumineux, avec un bon contraste. Une interface connue, c'était celle de l'iPhone.
Ouais. Donc tout de suite, on savait, on retrouvait ses psys.
Voilà, c'était très intuitif. Ce qu'on voit beaucoup sur les forums, c'est que même les gens âgés pouvaient s'approprier facilement cet outil. Les gens qui étaient, quand je dis âgés, pas très adepte des nouvelles technologies.
Mais c'est clair qu'aujourd'hui, les iPads, en fait, tout le monde a un iPad, de l'enfant jusqu'au senior, et s'en sert d'une manière totalement fluide.
Donc il était réactif, on l'a dit, il est rapide, il s'allume facilement, une bonne autonomie. La force, c'est son contenu, en fait, parce qu'il y avait déjà 140 000 applications disponibles. Mmh. C'est le fameux App Store. Il n'y avait que 12 applis dédiées à l'iPad au début.
Mais il était compatible avec l'App Store de l'iPhone.
Alors le problème, c'est que quand vous utilisiez une appli compatible avec l'iPhone, c'est à la taille de l'iPhone. Et si vous double-cliquiez dessus pour avoir la taille de l'iPad, c'est hyper pixelisé.
C'était pas terrible.
C'était pas top. Mais
ça, c'était le début. Après, petit à petit, les vraies applis sont arrivées.
Le côté négatif, et là c'est vous qui en parliez, on ne sait pas trop comment le tenir, il est soit trop grand, soit trop petit, il est assez lourd malgré tout, et sur les forums, les gens ne savaient pas trop, 680 grammes, ce que ça représentait. Donc l'unité de valeur pour ça, c'était, vous prenez un Tintin et demi, voilà, et vous aviez le poids de...
Alors, donc la bande dessinée.
Voilà, la bande dessinée Tintin, c'était l'unité de valeur du poids d'un iPad.
Tiens.
Voilà, donc on prendra votre Tintin, François, et tu vas reprendre ton Tintin pour voir. Il n'y avait pas de webcam, c'était l'un des reproches qui était formulé. La gestion du flash, je ne sais pas si tu te rappelles
Ça. Je me souviens, c'était la polémique à l'époque.
Bah oui, et c'était un choix de rupture d'Apple. Ouais. Apple misait sur le HTML5, mais ils étaient un peu seuls et on leur reprochait.
C'était le problème, c'est que quand on lançait le navigateur de l'iPad, il y avait plein de sites qui ne marchaient pas parce qu'ils étaient sous flash. Donc on avait...
Les vidéos notamment.
Voilà, et je me souviens avec Jérôme, on avait remarqué ça et ça nous... Ça nous agaçait beaucoup.
Bah oui, et puis finalement, ce n'est plus un sujet aujourd'hui. On lui reprochait de n'avoir qu'un seul haut-parleur. L'obligation de se connecter à iTunes pour transférer des fichiers ou sauvegarder son iPad. Aujourd'hui, la question ne se pose plus.
Oui, mais il n'y avait pas encore iCloud.
Non, c'est ça. Donc, on reprochait un système relativement fermé. Et puis, alors ça, c'est une coutume d'Apple, des kits et adaptateurs pour pouvoir connecter une télé ou un lecteur SD. Et parmi les bugs de début, un problème de Wi-Fi qui n'était pas très stable. Il se déconnectait souvent et un problème de surchauffe et de traces de doigts à l'écran, malgré un revêtement oléophobique.
Oui.
Mais c'est vrai que je me rappelle beaucoup de traces de doigts ou de luminosité, c'était pas toujours facile à utiliser en
place-soleil. C'est toujours le cas, la plupart des appareils high-tech.
Ouais, pour le coup, et nos doigts sont toujours des traces.
C'est ça.
Et la conclusion de 0 à 9, puisque j'ai donné le titre, c'est sur chacun des points testés, l'iPad n'a pas spécialement brillé, sauf pour celui des livres numériques. Il ne permet pas de travailler, de téléphoner, ni de prendre des photos, mais nous l'avons adoré. Et il lui avait attribué une note de 3,5 sur 5. Sachant que 3 millions d'iPads se sont vendus en 80 jours, comme je l'ai dit, le succès était tel qu'il a été repoussé de 2 mois en France, donc il est arrivé à la fin du mois de mai.
Oui, pour qu'il y ait du stock.
Pour qu'il y ait du stock, malgré un prix jugé élevé à l'époque. Et du côté des forums, les avis sont partagés. On connaît bien le sujet, il y a les Apple maniaques et il y a les détracteurs d'Apple. Et ce sont deux mondes qui s'affrontent. Alors, donc il y a les fans qui disent que l'iPad est un outil vraiment facile d'utilisation et plein de ressources. Celui qui ne l'a pas ne peut pas comprendre, en fait. Dès qu'il rentre dans le foyer, on ne peut plus s'en passer. C'est un petit peu mon cas. C'est le média de canapé par excellence. Là, c'est ce dont vous avez parlé lors du lancement il y a quelques années. En voyage, il remplace tous les autres modes de divertissement.
Ouais, ça, c'est vrai. Ça c'est à mon avis l'une des particularités de l'iPad. Quand on part en voyage et qu'on a la chance d'en avoir un dans l'avion, quand on est en déplacement dans un hôtel, etc.
Et notamment le mini qui est venu après. Moi, je suis un adepte du mini.
Ouais.
Parce que pour moi, c'est la bonne taille.
Ouais.
Et effectivement, c'est un compagnon et quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas un gadget, dit une personne sur un forum, mais un superbe compromis entre le netbook et l'iPhone. Donc effectivement, il fallait inventer la vie qui allait avec. J'ai regardé les avis de la Fnac de l'époque. Sur 40 avis, la note global était de 4,5 sur 5.
Donc ce qui est pas mal quand même.
Pas mal du tout.
Ouais.
Alors les détracteurs.
Bon, les détracteurs, alors oui, bon, et bien sûr.
Outil de geek, comment peut-on acheter ces daubes d'iPad? Ça coûte une fortune avec des composants obsolètes. Alors la personne qui a écrit ça s'est fait trier ensuite par les défenseurs d'Apple, évidemment. Ça ne remplacera jamais un PC portable ou netbook, faut pas rêver. Sachant que finalement, le monde du PC se porte toujours pas plus mal. Ça n'a pas remplacé le PC. On peut adjoindre un clavier, effectivement. Mais malgré tout, le PC a toute sa place.
Mais tu sais où finalement les détracteurs ont un peu raison, c'est que ça n'a pas remplacé le PC. Ce n'est pas un produit indispensable, l'iPad. C'est-à-dire que finalement, on t'enlève l'iPad demain, si tu as un PC, tu vas pouvoir t'en sortir. Et tous les usages que tu fais aujourd'hui avec un iPad, tu peux les faire avec le PC. Surtout sous Windows, avec les écrans tactiles. Mais malgré tout, c'est ça démarre instantanément. L'autonomie, elle est monstrueuse. Bah c'est fin, ça se range facilement dans un sac à dos. Enfin voilà, et puis c'est l'écosystème Apple, c'est cool pour regarder des photos.
Mais moi, pour
c'est
regarder
génial.
Des journaux, regarder des vidéos, j'ai rien trouvé de mieux, quoi.
Non, mais c'est clair. Mais et voilà, moi, je m'en sers pas tous les jours. Mais quand je m'en sers, je suis content de le manipuler et de profiter en fait de tout ce qu'il apporte.
Alors qu'est-ce que tu as comme iPad du coup ? Parce qu'il y en a pas mal.
Alors moi j'ai un Pro, j'ai un iPad Pro assez récent.
Donc plutôt un grand format.
Ouais, un grand format, ouais.
Alors aujourd'hui, 13 ans après, il s'est vendu 150 millions de tablettes l'an dernier, selon l'Institut Canalys. Il faut savoir quasiment une tablette sur deux a une marque à une pomme sur le dos, j'arrive pas à le dire. Samsung est loin derrière avec 20% de part de marché, c'est quand même pas mal, mais c'est quand même assez loin. Puis ensuite, on a Amazon et Lenovo. Et Apple a vu ses ventes croître de 30% entre 2021 et 2022. Donc c'est quand même toujours un marché en croissance assez fort.
Sans doute lié au Covid, je pense.
Probablement. Donc les gens ont trouvé l'usage qui pouvait accompagner ce produit. Aujourd'hui, on en a la 10e génération et surtout, l'iPad est devenu une famille puisque, donc toi, tu as un Pro, mais il y a l'iPad Air, qui à l'époque était plus fin, et le Mini désormais, que moi, j'utilise, avec globalement une réduction des bords. Hein, c'était le problème, c'est que la diagonale n'était pas top par rapport à l'encombrement du produit.
Il y avait des grandes bandes noires, mais c'était la technologie à l'époque qui ne permettait pas d'avoir des bords fins.
Hein. C'est ça. La suppression du bouton Home, c'est parmi les évolutions, et puis l'intégration de la dernière puce Apple, la M1, puis la M2 récemment. Et à titre de comparaison, on va prendre l'iPad 10 du coup pour voir un peu le chemin parcouru. Le 10 est considéré comme le premier nouvel iPad depuis le premier, si je puis dire.
Ah oui,
c'est
d'accord.
La première grosse évolution.
Donc la grosse rupture, on va
voilà.
dire.
Voilà, les autres étaient des mises à jour.
D'accord.
Là où le 10 est vraiment une nouveauté, il était lancé en octobre 2022, donc il n'y a pas très longtemps. Côté des dimensions, il est un peu plus large, il fait 25 cm, donc 24,8, non un peu plus haut, mais un peu plus étroit. Parce qu'il fait un peu moins de 18 cm, il se trouve beaucoup plus fin, comme je l'ai dit, il fait 7 mm versus 13 pour le précédent, le premier. Là, on est à 64 ou 250 Go de RAM, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est soit peu, moi c'est ce que j'ai pris, soit beaucoup, mais 64 c'est pas assez, j'aurais dû prendre
plus. C'est vrai que c'est 64 c'est un peu léger.
Bon, c'est un peu court, on a 4 Go de RAM, quand même beaucoup plus qu'auparavant, le poids a beaucoup baissé, on a 477 grammes, on a quand même perdu 200 grammes et c'est quand même pas mal, il y a 30 grammes d'écart entre la version cellulaire et la version pas cellulaire, mais c'est anecdotique, la diagonale fait 10,9 pouces pour un encombrement analogue. Donc on a beaucoup gagné en surface d'écran. Les bords noirs, on l'a dit, sont largement réduits. La résolution est beaucoup plus importante, évidemment, avec 2360 x 1640. Une puce à 14 bionique, dont on sait qu'elle est vraiment performante et ça booste bien l'appareil. Capteur d'empreinte digitale pour le déverrouiller. Et on a le droit de la couleur, cette fois.
Ouais.
Argenté, rose, jaune ou bleu.
Voilà,
on n'avait que du gris.
On va dire que maintenant, c'est un produit qui est mature en quelque sorte, qui évolue de temps en temps.
Voilà.
On n'a pas parlé du stylet, mais c'était l'une aussi des évolutions qu'il y a eu ces dernières années, avec des stylets de plus en plus perfectionnés. Certains l'utilisent, certains ne l'utilisent pas, mais en tout cas, il a le mérite d'exister. C'est vrai que pour les créatifs, ça a du sens.
Alors, si ça n'était pas Apple qui avait lancé ce produit, peut-être qu'il en aurait été autrement. Parce que là, ce qu'on voit beaucoup, c'est la force de frappe d'Apple en milieu marketing. Mmh. C'est l'incarnation de Steve Jobs. Et aujourd'hui, on voit si Apple a la moitié du marché, c'est quand même pas tout à fait anecdotique.
Ouais. Et si on avait pu tester le premier iPad, c'était grâce à toi, Christophe.
Bah oui, ça, j'étais à New York le jour du lancement.
C'était la petite anecdote, tu étais parti en vacances à New York et tu nous avais dit, je suis devant un Apple Store, c'était le jour où sortait
Il y avait un monde de folie,
l'iPad, et tu avais fait la queue, tu nous avais
acheté
un iPad.
Bah oui, je vous avais acheté deux iPads.
Deux iPads,
et je me rappelle
effet.
Qu'à l'époque, c'était compliqué parce qu'en fait, il fallait être résident américain, il fallait s'inscrire au préalable.
Oui, c'était très compliqué.
C'était très compliqué, et en fait, après 15 heures, c'était lancé le matin, c'était un truc énorme là-bas. Et après 15 heures, les caisses étaient ouvertes. À qui voulait acheter un iPad Et donc j'y suis allé un peu au culot. J'ai un type, je dis je voudrais deux iPads. Le type a sorti deux iPads, j'ai payé, je suis parti. Pas en courant, mais en théorie, ce que j'ai fait.
Et je me souviens, tu avais pris l'avion, tu étais venu directement nous voir. Voilà. On avait déballé le truc. Et avec Jérôme, on avait fait une vidéo. C'était peut-être l'une des premières vidéos, l'un des premiers tests de l'iPad en France.
C'est probable, parce que
c'était grâce à toi.
J'ai eu le samedi et je suis arrivé le dimanche.
Voilà.
Et vous étiez comme des enfants, c'était le jour de Noël pour vous.
Et cette vidéo, c'est drôle parce que je l'ai revue en partie il n'y a pas longtemps. Elle est encore sur YouTube et sur Dailymotion et c'est drôle de voir, on a un petit peu vieilli puisque c'était il y a 13 ans.
Mais vos blagues n'ont pas vieilli. À toi et à Jérôme, évidemment.
Mais c'était très sympa. Merci Christophe.
Merci beaucoup.
Et bien voilà, la boucle est bouclée.
Ouais.
On se 13 ans après. Voilà. on se retrouve très vite pour encore nous raconter
d'autres
de belles histoires de tech, notre rendez-vous nostalgique.
Et il y en a tant.
Avec Christophe Joly. Merci beaucoup Christophe.
Merci.
Ce de quoi je m'allais terminer. Voilà, c'était un vrai plaisir que de vous accompagner encore une fois ce week-end en version audio, en vidéo. On sera là, évidemment, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.